Antique Père Philippe, 17 janvier 1997, Saint-Jodard.
Je vous ai fait attendre quelques minutes, parce qu'on a dit que le cours de critique était particulièrement difficile. Et vous aviez de la peine à suivre. Alors, je l'ai raccourci. C'est de la miséricorde. Et c'est vrai que la critique est quelque chose de particulièrement difficile. Ça, je suis tout à fait d'accord. Vous voyez, je ne peux pas vous donner la référence à un livre. Ça qui est très étonnant. Il y a bien des livres d'effets sur la critique. Le livre du père de Comte Zedek, qui est un livre critique du début du siècle. Mais c'est intéressant. Je trouve que ce n'est pas la vraie critique qui devrait exister à un niveau d'une philosophie réaliste. Et pourtant, il en faut une, ça c'est sûr. Notre frère, notre père, qui reprend les degrés du savoir, c'est un livre de critique. Et ce sera par rapport à la science et la philosophie, les rapports entre les deux, quelque chose de particulièrement intéressant. C'est le livre de Maritain, revu et corrigé. Ce sera, puisque c'est fait par quelqu'un qui a toute une formation mathématique, et une bonne formation mathématique, donc qui peut saisir d'une manière plus profonde ces deux démarches, la démarche scientifique et la démarche philosophique de la sagesse. Et c'est capital de comprendre ça aujourd'hui. C'est difficile, mais c'est capital. Alors, la critique, c'est pas étonnant que vous ne compreniez pas, sauf les troisièmes années, ça. Si les troisièmes années ne suivent pas, ça prouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais déjà, la seconde année, on doit comprendre. Mais la première année, c'est votre purgatoire. Il vaut mieux le faire sur la terre qu'au ciel. Du moins, de l'au-delà, pas au ciel, à la porte du ciel. Alors on voit que la porte du ciel est très très belle, mais elle ne donne aucune lumière dans le purgatoire. Au contraire, c'est le contraste. Alors c'est dur. Et le purgatoire philosophique, c'est la critique. C'est vraiment le purgatoire. Vous voyez, ça ne nous fait pas avancer sur le problème de la personne. Rien du tout. Ça ne nous fait pas avancer sur le problème de l'intelligence naturelle et la métaphysique. Rien du tout. Mais ça nous permet d'avoir une intelligence plus précise, de mieux comprendre ce qu'est le raisonnement analogique, de mieux comprendre ce qu'est le verbe, de mieux comprendre ce qu'est la démarche intellectuelle au niveau critique, au niveau philosophique. Alors, je vais lire ici une question, une réflexion philosophique. Avoir pour base une interrogation portant non pas directement sur le réel, mais sur la concordance ou la non-concordance d'une opinion philosophique avec le réel expérimental. Tout à fait. démarche philosophique est encore assez fragile pour ne pas dire autre chose. Quand la démarche philosophique n'est pas très percutante, la critique nécessairement n'a pas sa place directe. On voit pas très bien. Parce que la critique, c'est essayer de comprendre la légitimité de ma démarche philosophique. Mon intelligence est faite pour la vérité. C'est la vérité qui finalise mon intelligence. Et toute démarche de mon intelligence, elle est finalisée par la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, selon Thomas d'Aquin, c'est l'adéquation ou la concordance entre ce qui est connu et le réel. Alors, qu'est-ce qui est connu? C'est le réel. Ah, vous voyez, la très grosse difficulté. Alors, c'est ça la critique. C'est de voir que ma démarche philosophique est légitime au niveau philosophique. C'est de voir que ma démarche philosophique est vraie au niveau philosophique. Que j'atteins et que je suis capable d'atteindre la vérité. Je ne reste pas toujours dans l'opinion. Mon intelligence est capable d'atteindre la vérité. Adéquatio intellectus et realité. Et la réalité. Intellectus ad rem, c'est l'adéquation de ce qui est connu avec la réalité. Voilà la vérité. Je prétends que ce que je dis est vrai. Donc ce que je dis est adéquat à la réalité. Il faut donc qu'il y ait une première connaissance philosophique qui dit atteindre la réalité. Et j'essaie de justifier cela. La critique justifie mes démarches philosophiques comme étant vraies. Donc la critique est toujours seconde, elle n'est jamais première. L'intuition de l'être, il n'y aurait pas de critique. Parce que quand j'ai l'intuition de quelque chose, la seule chose que je peux faire, c'est de reprendre la même route pour voir si ce que j'ai vu est bien. C'est ce qu'on fait de temps en temps. Quand on a un petit peu de temps et qu'on voyage pour se détendre, on passe devant quelque chose qui semble très beau et on y passe à toute vitesse en dépassant la vitesse normale, ce qui arrive de temps en temps. On dit, ah, revenez un petit peu, ça me semble si beau ça, si intéressant, et on revient pour voir si la première impression est conforme à la deuxième impression. On a vu quelque chose relecture. La relecture n'est pas critique. C'est différent. La critique de la relecture. La critique, c'est de voir si ce que je connais est conforme à la réalité. Donc, est vrai. Si ce que j'ai atteint par mon intelligence est conforme à la réalité. Mais vous comprenez que tout le cheminement de la philosophie, depuis l'expérience jusqu'à la découverte de Dieu, et la découverte de Dieu comprise dedans, et à partir de la découverte de Dieu, tout ce chemin de sagesse qui peut être pris, la critique cherche le premier moment de l'adéquation de l'intelligence avec la réalité. Alors, ce premier moment, c'est quoi? Je cherche et j'évacue tout ce qui n'est pas premier pour chercher ce premier moment de contact de l'intelligence avec la réalité. Vous voyez donc que l'ordre de la critique est inverse de l'ordre de la philosophie. En philosophie, j'avance toujours vers des réalités plus parfaites et je termine mon cheminement métaphysique en découvrant Dieu. Or, Dieu est au-delà de la critique. Je ne peux pas critiquer Dieu. Je ne peux pas critiquer l'être. Ce sont mes deux mesures. Mais je critique le point de départ pour remonter jusqu'à Dieu. Quel est le véritable point de départ? Je critique toutes les stations intermédiaires. Je critique ma connaissance métaphysique. Est-elle critiquable? Oui. Tout ce que je connais qui touche le jugement est critiquable. Parce que rien de ma connaissance intellectuelle n'est de ma connaissance métaphysique. L'intuition seule n'est pas critiquable. Il y a très peu de choses que je connais par intuition. Vous comprenez pourquoi c'est pas critiquable? Parce que si c'est une intuition, ben, j'aurais beau la regarder indéfiniment, je verrais toujours que le rapport du prédicat et du sujet est évident. Si le rapport du prédicat et du sujet est évident, je peux le regarder 50 fois, ce sera toujours évident. Mon évidence s'enracinera de plus en moi, mais ce sera évident. Tout n'est donc pas critiquable. N'est critiquable que lorsque l'abstraction apparaît. S'il n'y avait pas d'abstraction, si ma connaissance était simplement un reflet, un miroir, reflétant la réalité, il n'y aurait pas de critique. Si ce n'est pour voir que mon miroir peut être plus ou moins propre dans un miroir plein de saleté, je sais que tout ce que je vois à travers le miroir sera plein de saleté et donc sera pas net. Et je nettoierai le miroir pour que ce soit propre. La critique, à ce moment-là, consiste à nettoyer mon intelligence. Parce que mon intelligence n'est pas un miroir. Mais mon intelligence est une capacité de connaître le réel. Et cette capacité de connaître le réel gros bourdon qui n'existe pas, mais qui existe parce que il y a du jus. Alors je regarde. Au fond, je n'écoute plus de la même façon. Et par le fait même, je peux très bien me tromper. On n'a jamais une intuition absolument pure. Parce que on est en face de la critique de la troisième opération d'intelligence, le raisonnement. Il y a trois opérations d'intelligence. Ces trois opérations sont connues en philosophie du vivant. C'est la philosophie du vivant qui comprend ces trois opérations d'intelligence analogues. De la vie végétative. C'est curieux, mais c'est comme ça. Quand vous mangez, vous avez d'abord regardé le plat, puis vous êtes servi. Il y a une appréhension de ce que je mange. Et il y a quelquefois des appréhensions qui me font vomir. En ce sens qu'il y a certains aliments premières appréhensions. Certains ne peuvent pas manger des champignons. Ah, ça les fait pas bien. Manger quelque chose qui n'est pas net, c'est de la pourriture. Je connais quelqu'un qui peut pas manger des champignons. Et c'est de la pourriture. On l'exigerait ça. Et sa mère dit que c'est depuis qu'elle est toute petite. Quand elle était petite, on n'exigeait pas de prendre des champignons. C'est pourri. Maman, c'est pourri. Je mange pas de la pourriture. Alors, il y a de la pourriture cultivée et de la pourriture non cultivée. Une pourriture cultivée, on arrive à la manger. Une pourriture sauvage. Quelquefois, ça vous fait vraiment vomir. C'est curieux, ces choses-là. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue dans l'intelligence. Je dis bien d'analogue. En réalité, ça ne devrait pas exister, puisque l'intelligence est au-dessus de la matière, est au-dessus de la quantité. Or, les éléments contraires au point de vue nourriture proviennent de la quantité, proviennent du corps. C'est sûr, l'esprit n'a pas d'opposition, a priori. Le corps a des oppositions, a priori. Certains aliments, je ne peux pas les manger. Alors, on dit, mais faites attention, faites des sacrifices. Vous savez, comme quand on a éduqué un gosse qui a beaucoup de peine à manger sa soupe, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. L'aversion vis-à-vis de la soupe est plus forte que l'amour à l'égard du père. Quelquefois c'est l'inverse. Eh bien, c'est très curieux de voir que notre vie végétative, c'est quand même premier degré de vie. On retrouve des analogies avec la vie intellectuelle. Mais normalement, la vie intellectuelle et spirituelle, au-delà de la matière, ne devrait plus avoir ces oppositions. Si elles se retrouvent, on peut lutter. L'éducation consiste à lutter contre ces oppositions a priori. Mais certaines de ces oppositions a priori sont tellement ancrées en nous qu'on n'arrive pas. C'est inutile de forcer. On n'y arrivera pas. Mais il y a une critique qui touche cela. Qui touche ces oppositions très radicales. Très fondamentale, qu'on a instinctivement, mais devant lesquelles on peut lutter, tandis que certains a priori de la vie végétative, ça ne sert à rien de lutter. C'est là la supériorité de la vie intellectuelle. Que la contrariété n'est pas un absolu. La contrariété n'existe pas en Dieu. La contrariété n'existe pas au niveau de l'être. Elle n'existe qu'au niveau de la forme. Or, si l'intelligence étant donnée à l'être, elle est au-dessus de toutes ces contrariétés. Voilà ce que la critique nous fait comprendre. Et ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas d'âne intelligent. L'âne n'existe qu'au niveau de la vie végétative. avancer. Vous lui donnerez des coups de bâton. Non. Il mourra sur place. Ça, ça n'existe pas au niveau de l'intelligence. Mais il y a des entêtements analogues. Et quand vous dites que vous n'avez pas la bosse mathématique, c'est faux. Il n'y a pas de bosse mathématique. Mais il se peut que votre premier maître en mathématiques, vous avez eu des répulsions vis-à-vis de lui. Et cette répulsion à l'égard de la personne a atteint la science que la personne enseignait. Parce que vous n'avez pas fait la distinction entre l'objet de cette science et celui qui l'enseignait. Vous voyez, tout ça, regarde la critique. Vous direz, ah, c'est la psychologie, mais pas du tout. C'est de la critique. C'est de la critique, ça. Toutes vos répulsions ont une base. Toutes. Et lorsque vous êtes de bonne humeur et que vous n'êtes plus un enfant, réfléchissez sur ces répulsions. C'est de la critique. C'est la partie affective de la critique. Parce qu'il y a une connaissance affective dite pratique. Et la connaissance affective pratique relève sur des antipathies de jeunesse ou des sympathies de jeunesse. Nos connaissances sont passées par le sensible. Toutes nos connaissances passant par le sensible sont passées quelquefois par des antipathies violentes qui relèvent de la première enfance. Et vous voyez que ces antipathies qui relèvent de la première enfance ont pu être des barricades. On ne passe pas. Et on s'est dit, on ne passe pas. Et on est resté prisonnier de ses a priori. Quand on grandit, on les dénoue. Et on voit qu'il n'y a aucune raison. Parce qu'on avait chargé ses antipathies d'affectivité, de colère, d'opposition. Quand on en fait l'analyse, et la critique, on s'aperçoit que ces critiques dépendent de certaines attitudes, certaines antipathies, certaines antipathies très anciennes qu'on a complètement oubliées, mais qui demeurent dans ses conséquences. Donc, vous voyez que la critique que nous faisons au point de vue philosophique, elle a une grosse importance jusque dans notre psychologie pour dénouer un être vraiment humain ne devrait avoir aucune antipathie. Même pas à l'égard des serpents. Pas toujours commode. Parce qu'il y a des serpents qui sont très bons à manger. Et donc, on ne doit avoir aucune antipathie vis-à-vis d'eux. Il y a des antipathies qui sont très curieuses. Très, très curieuses. Et ces antipathies sont un fondement critique affectif. Il y a une affectivité très grande, très difficile à dépasser. Et il y a des antipathies au niveau vie végétative on a nos histoires d'antipathie. C'est quelquefois très bon de faire le parcours pour les supprimer petit à petit. Au moment de la mort, on ne devrait avoir plus aucune antipathie. On entrera directement au ciel. Le ciel, c'est le lieu où toutes les antipathies disparaissent. Au couvent, c'est un lieu de purgatoire à l'égard des antipathies. Beaucoup d'antipathies disparaissent parce que on vit plus proche de Dieu. Et Dieu est la personne sans aucune antipathie. Il peut susciter des antipathies mauvaises. Parce que en réalité, Dieu ne suscite jamais d'antipathie. Mais les personnes qui nous ont parlé de Dieu peuvent élever en nous, surélever en nous, de très grosses antipathies. Et à ce moment-là, le rayonnement de leur antipathie va jusqu'à Dieu. C'est donc très important, vous voyez, quand il s'agit de la connaissance affective, de connaître comment elle est née. Parce que la connaissance affective est extrêmement concrète. Il n'y a pas d'abstraction dans la connaissance affective. La connaissance spéculative commence par l'universel. La connaissance affective n'a pas d'universel. La parole de Molière, l'ami du genre humain, n'est pas mauvais. Quand vous prétendez aimer le genre humain, vous n'aimez personne. Et vous dites, pour aimer les hommes, je dois n'aimer personne pour aimer le genre humain. Mais le genre humain n'existe que dans votre tête. Il n'existe pas dans la réalité. Alors, il n'y a pas d'antipathie vis-à-vis du genre humain. Il y a de fausses antipathies. Mais il n'y a pas d'antipathie. Et ainsi de suite. Vous voyez, une critique à l'égard de la connaissance affective a cet immense avantage de montrer qu'il y a des quantités d'antipathie qui ne tiennent pas dès que je passe à critique. Alors, c'est quand même agréable, parce que de vivre avec des gens qui ont de très lourdes antipathies, c'est pas commode. Il faut se dire que plus on s'élève haut, plus les antipathies disparaissent. Et dans votre vie religieuse, dans votre vie contemplative, il ne devrait plus y avoir aucune antipathie. Il y a une très grande diversité, mais pas d'antipathie. La diversité n'est pas antipathique. La diversité me permet de mieux connaître. Parce que je mets la pivoine à côté de la violette. Or, j'avais jamais vu qu'il y a parmi les hommes et parmi les femmes des violettes. Mais il y avait aussi deux grosses pivoines. Quand elle arrive, elle prend tout. Tandis que la violette, quand elle arrive, personne ne la voit. On l'oublie. Mais c'est pas parce que j'aime la pivoine que je déteste la violette. Pas du tout. Je détesterai plus vite la pivoine que la violette. Parce que vraiment, elle prend un peu trop de place. Vous savez, quand on est en avion, et qu'on ne choisit pas sa place, et qu'on est à côté d'une pivoine. Alors, on cherche, à travers tout l'avion, où est la violette. soi-disant, on les dévisse. Et on les dévisse pas du tout. C'est très curieux. Quand vous savez très bien, tu vois, quand vous croyez savoir très bien pourquoi telle personne vous est antipathique, ça ne supprime pas du tout l'antipathie. Parce qu'au fond, c'est très rare que vous arrivez à connaître vraiment pourquoi cette antipathie. Les antipathies, c'est le royaume des ténèbres. Le royaume des chutes. C'est très difficile. Mais c'est bon, justement, d'analyser les soi-disant antipathies dans la vie commune. Parce que, au fond, il n'y a pas d'antipathie naturelle. Elles sont toujours a priori. C'était une mère de famille qui me disait ça, venant me consulter sur son enfant, c'était très curieux. Mon gosse a une antipathie farouche contre les mathématiques. Je dis tiens, tiens, oui, un tout petit gosse. Alors, j'ai dit à la mère, demandez qui était son premier professeur de mathématiques. Alors la mère m'a regardé, mais pourquoi? Parce qu'il a dû avoir une antipathie farouche contre ce professeur. Et à partir de là, s'est porté sur les mathématiques. Faites ça vis-à-vis de certaines antipathies. Ça les enlève royalement. Vous voyez, il n'y a pas de cours sur les antipathies affectives. De moins en moins. Tandis que si on vieillit mal, les antipathies augmentent. Ordinairement, il y a certains coins psychologiques où l'on vieillit bien et d'autres où l'on vieillit moins mal. Et vous le voyez tout de suite, là où les antipathies demeurent. Là où les antipathies disparaissent. Ça, c'est ça que j'appelle une lucidité vis-à-vis de soi. Et cette lucidité est bonne pour la vie commune. Parce que on ne doit pas s'alourdir la vie commune. Si vous avez beaucoup de peine à l'égard de telle ou telle personne, on vous dira, mais tout simplement, voyez-la moins. Et au bout d'un certain temps, vous aurez progressé en vertu. Vous la retrouverez. Ce sera complètement tombé. Tandis que si vous nourrissez vos antipathies avec un sacré manière de nourrir en nous les choses qui sont moins bonnes, si vous nourrissez les antipathies, tous les jours je rencontre cette personne parce que je sais le chemin qu'elle prend. Je prends exprès le même chemin pour la rencontrer. Au bout d'un certain temps, l'antipathie deviendra de la haine. Si vous êtes intelligente,